On va passer sur un petit bilan. Qu'est-ce qui vous a marqué en 2015?
La sortie de Tassetti Kemet. Ensuite, question suivante.
Niveau jeu de société déjà.
Oh, c'est amusant,
est-ce que vous avez un coup de cœur 2015?
Ouais.
Ouais. Et quel est-il?
Ouais.
Le
attends,
mec
attends.
Qui veut pourrir
non.
Ouais, j'en ai un, ouais.
Bah, moi non.
Ouais,
ok,
un, ouais.
Prochaine question.
Exactement que j'en ai un, mon vieux.
Ouais. Il est super bon.
Attends.
Ah bon.
Donc, vous voulez que je vous le dise?
Ouais, ce serait bien.
Bon,
non, mais en fait, non, laisse tomber.
Ouais, je sentais bien que ça vous intéressait moyennement.
On préfère que ce soit Jack qui nous en parle.
Ouais, alors moi, c'est peut-être. Non, à moi de parler.
Tu peux nous parler du coup de cœur 2015 de Guillaume?
Ouais, moi je le connais.
Ah, vas-y.
Ouais. C'est Russian Railroad.
Exactement. Ouais. Putain, il est trop fort.
Ah bah ouais, MK avec son jeu là. C'est courant. Hein.
Ouais. Exactement, c'est l'extension de Russian Railroad.
Ah, l'extension, pourquoi c'est 2014
parce que, Russian Railroad, il est sorti il y a un petit moment. Ouais,
le jeu, il faut avoir fait Matsup, Matsp pour faire un point, c'est ça,
ouais, c'est ça.
Bon, on va peut-être laisser Guillaume nous en parler.
Ouais, non, l'extension de Russian Railroad. Donc, je l'ai acheté Ryzen, puisqu'il est sorti à SNCA. Et en fait, depuis, on joue hyper régulièrement. Comment dire, comme quoi une extension ça peut relancer un jeu. Non, je dis pas ça pour ça, mais vraiment, autant Russian Railroad on avait vraiment accroché, et je me suis dit bon bah voilà, l'extension ça va rajouter un petit peu de plaisir mais sans plus, et là finalement on joue vraiment vraiment énormément. L'avantage pour ceux qui connaissent Russian Railroad, c'est l'extension Allemagne, le fait qu'on ait un plateau allemand et qu'on puisse moduler ces différentes voies ferroviaires.
On sent tes préférences, hein. On revient toujours à l'Allemagne.
Toujours à l'Allemagne. Et donc là, et pour le coup, comme Kemet Tassetti, c'est une extension modulaire. Alors, je suis pas fan de tous les modules, notamment le module charbon qui est pas à mon avis, qui à mon avis est indispensable. Mais le fait de jouer avec les nouveaux plateaux, vraiment, ça renouvelle le jeu de manière brillante. Et je félicite leurs auteurs.
Ils sont plusieurs.
Je crois qu'ils sont plusieurs. Wolfgang Hansen, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Des Allemands.
Je crois que c'est des Allemands. Ouais. Non, ils ont des noms allemands que je n'ai pas réussi à prononcer, ou en tout cas pas réussi à retenir. Mais si vous aimez Russian Railroad, il faut absolument pas vous priver de l'extension German Railroads, en fait. GRR, okay. Comme George Martin, mais presque.
Comme GRR Ewing.
Ewing.
Ok.
Et toi, Jacques, t'as un truc qui t'a marqué?
Alors, moi, je suis un carrefour de ma vie, tu vois. Non. En fait, je blaguais là tout à l'heure sur Russian Railroad. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec les jeux à l'allemande, à l'ancienne, auxquels j'ai énormément joué. Hein. On dit à l'allemande, hein, mais Kellus, par exemple, Puerto Rico et compagnie. Même Agricola au début, jusqu'à ce que trop de frustration me tue et que finalement je ne joue plus. Et donc je me tourne un petit peu plus vers des jeux à l'américaine entre guillemets, ou un méritrash. Et donc moi en 2015, alors il y a deux choses. Il y a un phénomène, c'est le phénomène Kickstarter, et dedans c'est le jeu Conan. Conan. Moi je dis Conan.
Ah, parce que tu l'as eu toi.
Le jeu Conan. Pardon ?
Parce que tu l'as reçu toi ?
Non, je ne l'ai pas reçu, mais j'y ai joué. J'ai joué à des prototypes et j'ai beaucoup aimé. Après, je sais que Guillaume aime moins ce type de jeu. Carrément. Hein.
Carrément. Enfin, c'est pas.
C'est paradoxe incroyable, hein, c'est que Guillaume adore faire du GN, mais il déteste les jeux où il y a trop d'immersion.
Oh, je déteste. C'est hyper immersif, Russian Railroad. T'es là, tu te dis.
J'achète un sucre qui ressemble à un rail.
Je vais faire un rail noir, un rail gris.
Et qui me rapporte 3 points, mais seulement si j'ai mis un rail bleu. Sous la
vous n'avez pas d'imagination. Voilà, c'est ça mon problème.
C'est ça.
Vous savez pas vous projeter dans l'Allemagne des années 50.
Ça fait rêver, quoi.
Donc voilà, donc je me tourne un petit peu plus sur les jeux immersifs. Et donc là, je pense. Ouais, Kickstarter, il y a eu beaucoup. J'ai acheté quelques jeux Kickstarter, malgré ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, le problème que ça court-circuite pas mal d'intermédiaires et que ça peut, à terme, je sais pas. Bon, après, je me dis, ça reste quand même un phénomène réservé à des tarés comme nous qui sommes prêts à attendre un an un jeu qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans et qu'on ne sait pas s'il sera livré vraiment dans un an.
Et que la plupart du temps, tu n'as pas pu essayer.
Pardon ?
Que tu n'as pas pu essayer.
C'est ça, la plupart du temps, que tu n'as pas pu essayer. Donc là, ce n'était pas le cas de Conan, mais bon, je réfléchis aux jeux auxquels j'ai joué. J'ai beaucoup aimé aussi Five Tribes de Bruno Catalac. J'ai essayé qu'une fois, mais j'ai trouvé que c'était bien. Et là, voilà, on retombe dans un jeu à l'allemande. Hein, donc, je n'ai pas du tout effacé de ma mémoire les jeux à l'allemande. Au contraire, hein, j'y joue encore régulièrement. Mais je me tourne un petit peu vers une autre manière de jouer. C'est l'âge, je pense.
Et Colt Express, il a raflé tous les prix, le Spiel, l'As d'Or. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
J'ai joué à Colt Express.
On a fait une partie.
J'ai fait une partie. Ah oui, c'est assez aléatoire. C'est pas, je comprends que ça marche.
C'est assez grand public, quoi. C'est pas...
très grand. Moi, j'ai trouvé ça très grand public. Après, moi, je.
C'est pas non plus. C'est pas Russian Railroads.
Non, c'est pas. Mais c'est super bien édité, par contre.
C'est super bien édité.
C'est super bien édité.
Ouais, c'est super bien édité.
Ouais, le train.
Après, c'est pas
non, le train, mais même les petits bosquets, etc. Je trouve que l'idée est top, quoi. Enfin, pour le coup, c'est immersif.
Oui, c'est vrai.
Il y a un train, tu vois, un jeu de train peut-être immersif, c'est comme vrai, Russian Railroad. Ouais.
Tout à fait.
Surtout quand on a la DeLorean, surtout quand on a la DeLorean de Retour vers le futur.
Puis arrêtez de nous demander des avis. Faut choisir son camp. Hein. Soit tu fais des jeux, soit tu critiques.
Ah ouais. Pour toi, il y a deux camps.
Non, je te demande pas une critique. Je te demande, voilà, si t'as aimé y jouer, c'est pas vraiment.
Bah, c'était sympa, mais c'est pas forcément le jeu auquel je reviendrai spontanément en disant tiens, j'ai envie de faire un Colt Express. Voilà.
Est-ce que l'aspect 3D, ça vous inspire des choses pour des jeux
pour genre mettre des pyramides en 3D dans Kemet. Ah merde, mais c'est
ouais, clairement, oui. Alors, le 3D, tu dis uniquement que ce soit pas juste un pion à la Russian Railroad posé sur ton, sur ton bout de carton.
Le train 3D, typiquement.
Oui, bah, à Kemet, il y a des figurines, il y a le teint 3D. Oui, ça, c'est une très bonne idée. Ça, c'est une excellente idée. Et ça, en plus, c'est utilisé dans le mécanisme de jeu, donc c'est bien intégré. Donc oui, c'est vraiment une bonne idée.
Ce que je veux dire, c'est est-ce que ça vous ouvre vous des idées pour de la création de jeux? Le fait qu'on voit se développer
la hauteur,
du matériel comme ça 3D à bas prix du coup, parce que en fait on arrive du coup avec ces punch cartons à tirer les prix vers le bas et donc à faire que des jeux deviennent éditables alors que peut-être ils l'auraient pas été avec ce genre de matériel si on les avait fait en plastique typiquement.
Ouais. Bah, moi non, personnellement non. Mm-hmm. Après, je me dis que ça peut être une piste à évoquer. Mais spontanément, je partirais plutôt sur du plat. Mais voilà.
Après, on a quand même eu pas mal de discussions quelques discussions sur l'avenir de Kemet et on a commencé à imaginer les trucs de ouf qui coûteraient un bras, quoi. Je pensais à tes figurines là où tu voulais faire. Hein. Bon, bref.
Oui, mais on change pas de niveau. Juste la figurine était grande, quoi. Mais
oui.
Là, je pense que tu parles d'utiliser la hauteur, par exemple.
Pas nécessairement. Ouais. Le fait d'avoir des figurines, du coup, des figurines 3D, du matériel 3D, sans nécessairement utiliser la hauteur. Moi, je suis pas hauteur. Je ne veux pas brider ton esprit créatif.
En termes de mécanique, non. En termes de matériel, oui. Mm. Mais en termes de mécanique, c'est vrai que j'ai pas spécialement pensé. Je pense au jeu de Bozan Mobla, où on doit tout casser là, inspiré de Rampage. C'est Rampage d'ailleurs. Ouais. Ouais. Donc voilà, tu veux dire ce type de mécanisme là. Ouais. Ben, personnellement, non. Moi, j'ai après. Je vais y penser maintenant.
Je pense qu'en tant qu'auteur, on commence à se brider de moins en moins par rapport au matériel, parce que justement, on a de plus en plus de possibilités d'utiliser des trucs de ouf.
On n'est plus limité aux tuiles et aux cartes, quoi.
C'est ça. On n'est plus limité aux tuiles et aux cartes, et on peut se dire si je commence à créer un jeu où il y a 60 figurines, où il y a un truc en 3D, potentiellement, il y a un éditeur qui pourra le faire, quoi. Mm-hmm. Alors que peut-être qu'avant, les auteurs se disaient si je vois trop gros, de toute façon, personne ne le prendra parce que ça va coûter une blinde et que c'est juste impossible à faire. Mm-hmm. Là, c'est quand même de moins en moins le cas.
Ouais, puis il y a le côté originalité. Parce que les jeux où il y a juste des pions, des cartes, il y en a pléthore. Un jeu où déjà, rien que visuellement, il y a effectivement une originalité. Déjà, je pense que ça attire dans la masse à nouveau. On en revient toujours à cette masse de jeux édités. Ça attire l'œil. Mm-hmm. Hein, forcément, je pense.
Ça me paraît assez évident. Moi, j'avais vu Colt Express Paris Ludique l'année dernière 2014. Effectivement, je leur avais dit, mais ça va être forcément un carton avec votre train 3D.
C'est un petit peu aussi les Kickstarter jeux qui marchent énormément, c'est ceux qui ont des tonnes de plastique, c'est-à-dire énormément de figurines. Globalement, un jeu, vous éditez un jeu classique sur Kickstarter, il va pas faire les 2-3 millions de dollars comme ça. Alors, quoi que je dis ça,
mais est-ce que vous avez demandé à l'auteur de Colt Express s'il avait imaginé son jeu en 3D au départ?
Non, il l'a pas imaginé en 3D. Je ne l'ai pas demandé, mais j'ai entendu des interviews.
Voilà, donc c'est clairement, l'éditeur qui, à un moment donné, a dit ça, on peut le faire, quoi. Et qui a poussé le. Alors que l'auteur, au final, il avait pas. Il avait peut-être une idée plus, entre guillemets, classique.
Une idée apparemment de Bruno Catala et Antoine Beza, je crois.
De faire remonter d'un niveau et de le faire en 3D.
Ouais, qui lui avait dit il faut
que ça soit forts. Ils sont forts, ces deux-là.
Quel talent.
Bonjour à tous. Donc, mon jeu 2015, ça ne sera pas un jeu édité en 2015, mais une vieillerie. C'est un peu ma spécialité, on va dire, ou en tout cas ce qui m'amuse beaucoup. C'est un jeu qui s'appelle Yakatapé, édité par Mako. Et quand vous entendez Mako, vous pouvez penser au Mako Moulage. C'est la même société et la même époque, puisqu'il date de 1989. J'ai choisi ce jeu-là parce qu'il est assez typique des jeux que je peux trouver en vide-grenier. Là, j'ai vu une boîte énorme, un design très années 80, un jeu qui promettait d'être fun et bruyant. Je me suis dit, ah, je le prends pas. Évidemment, je l'ai pris, et ça s'est révélé très bruyant. Très bruyant parce que c'est un type tap-taupe. Donc ça fait référence aux bornes d'arcade où vous avez des taupes qui sortent de manière aléatoire et qu'il faut écraser avec une massue. Ici, vous avez 5 socles que vous posez sur une table, une minuterie et une massue en plastique. Pour jouer, vous rentrez les monstres dans les socles. Alors, c'est des monstres, pas des taupes, mais le principe reste évidemment le même. Vous lancez la minuterie, les monstres sortent de manière aléatoire, vous tapez dessus aussi vite que possible, et à la fin de la minuterie, vous faites les comptes en regardant le score qui s'est inscrit sur chacun des socles. Le joueur suivant procède de la même façon, et celui qui a le plus haut score gagne. C'est un jeu Pour parenthèse, c'est un jeu qui est entièrement mécanique, il n'y a pas besoin de piles, donc c'est bon à savoir parce que vous n'avez pas de risque d'avoir de piles qui a coulé quand vous l'achetez en vide-grenier, par exemple. C'est un jeu qui est très bête, très fun, qui plaît énormément aux enfants. Chez moi, ça a eu un très très grand succès. Évidemment, en tant que parent, il faut prendre un peu sur soi parce que ça génère beaucoup de bruit. Mais honnêtement, vu comme les enfants s'amusent, ça vaut le coup. Après, évidemment, il ne faut pas le sortir tous les deux jours parce que sinon vous pétez une pile. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Moi, je suis contente de l'avoir à la maison et de l'avoir dans la collection. Donc, Yakatapé, qui porte bien son nom, comme vous l'avez compris. Il n'est pas disponible chez Philibert, mais vous pouvez le trouver au gré de balades en vide-grenier. Je dirais pour la somme maximale de 5 euros, parce qu'au-delà, c'est plus du vide-grenier. Et voilà, donc je vous conseille Yakatapé si vous le voyez, au moins pour essayer. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le revendre dans un vide-grenier. Il continuera son chemin. Et voilà pour ma recommandation ou le jeu qui aura marqué mon année 2015.
Et sinon les jeux jetables, alors vous en pensez quoi? Genre Time Story, le jeu où je joue une fois, genre Pandemic Legacy.
Alors, Pandémie, je suis pas fan, c'est le thème, hein. Un jeu où tu combats la chiasse, ça m'attire pas plus que ça.
Mais ça arrive à tout le monde, hein.
Ça arrive à tout le monde, mais voilà.
Même au meilleur.
Je trouve ça moins immersif. Non, mais tous ceux qui jouent à Pandémie Legacy vont te dire, mais non, c'est pas un jeu jetable. C'est un jeu évolutif, mais pas jetable. Alors après, effectivement, si tu achètes un jeu dans le but de le revendre, tu te dis, c'est sûr que tu vas jamais revendre le jeu initial, puisqu'il aura évolué en fonction de ce que tu as joué. Après, je pense pas que Time Story, c'est pareil, c'est pas un jeu jetable. Puisqu'il y aura de toute façon des scénarios.
Ça peut se revendre, par contre.
Déjà, ça peut se revendre. Et puis, il y aura des scénarios qui vont sortir régulièrement et peut-être qui vont faire évoluer le concept vers d'autres, je sais pas. Côté bac à sable, non? Ça a été évoqué aussi. Il y a, au départ, le jeu peut avoir plusieurs manières d'être appréhendé et développé.
Oui.
Merci, Guillaume.
Non, ça a été évoqué, c'est sûr. Mais moi, je ne me suis pas lancé là-dedans, quoi, en tout cas.
Oui, oui, je comprends.
Mais c'est clair qu'il y a plein de trucs à faire.
Non, mais c'est le côté jetable. Parce que le terme est un peu méprisant, il faut dire ce qui est.
C'est moi. C'est
jetable, ça fait c'est la différence entre... De quoi?
C'est moi qui ai volontairement écrit ce terme.
Là, tu nous provoques. Ouais, tu veux te battre?
Toi, t'es un peu le poil à gratter, toi.
on est quand même d'accord que comparativement à un autre jeu, clairement, il y a une durée de vie affichée.
Ouais.
Une durée de vie affichée. Pandémie, c'est 12 à 24 parties pour Enemy Legacy. Time Stories, bon, voilà,
Sherlock
ils ne
cachent
pas, ils disent Sherlock Holmes, tout à fait. Time Stories, ils disent ben voilà, vous allez faire qu'une partie du scénario. A priori, ouais. Après, effectivement, comme on l'a déjà dit, on peut rejouer. C'est pas le même, voilà, ce sera pas le même genre de partie.
Ouais. Alors, dire, déjà, so cite-moi le nombre de jeux où tu as joué 24 fois. à combien de jeux as-tu joué 24 fois?
Clairement, il n'y en a pas beaucoup.
Voilà. Bon, à part Kemet. Nous, Kemet, ouais, on est au-delà de 24 fois. Mais donc voilà, quand tu dis, ouais, il est jetable parce qu'on peut y jouer que 24 fois. Hein, c'est donc déjà, ouais, je pense qu'il y a
pas,
déjà...
Je ne dis pas qu'il est jetable parce qu'on ne peut y jouer que 24 fois. Je dis qu'il est jetable parce qu'il a une durée de vie.
Alors, la question parce était, que pensez-vous des jeux, jetables, genre Time Stories et Pandémie Legacy? Donc, pour moi, vous disiez que c'était un jeu jetable.
Oui, ouais.
Donc voilà, moi je dis déjà ce côté jeu, du moins. Alors effectivement, il a une durée de vie limitée, mais c'est comme les jeux à scénario. Voilà, donc
oui. Moi, ça me choque pas du tout parce que, notamment, j'ai une culture jeu de rôle ou jeu de rôle grand nature où c'est le quotidien en fait du jeu, c'est à dire que tu fais une expérience, tu la refais pas quoi. Après, tu gardes l'objet parce que c'est souvent un bel objet, parce que tu te dis peut-être qu'un jour tu vas pouvoir quand même y rejouer
grâce à la maladie d'Alzheimer, tu vas pouvoir en refaire un
exactement, et voilà. Où tu le gardes comme un espèce de trophée, mais un peu comme un livre au final.
Donc, c'est du vrai coup, que tu relis pas les livres quand tu les gardes.
Pour moi, il n'y a même pas de débat en fait. C'est une expérience qu'on te propose. Tu y adhères, tu n'y adhères pas. Moi, j'y adhère plutôt, mais voilà. Mais,
c'est comme aller au cinéma, c'est ça?
Non, mais en plus, surtout, c'est une vision consumériste du jeu. Quoi. C'est-à-dire, on l'achète pour le jeter. Non, il faut peut-être se mettre par rapport au plaisir pris dans le jeu. Quoi. Après, est-ce que tu dois mettre un coup à ce plaisir? Si tu t'es amusé dans ce jeu, effectivement, revoir la boîte, rien que de revoir la boîte, tu vas te rappeler l'expérience et ça va peut-être te suffire. Donc, parce que là on fait du jeu une donnée de consommation. C'en est une, s'il y a une réalité, il y a un marché, mais il faut peut-être aller au-delà. Voilà, peut-être.
Pour en faire un objet culturel et ne plus les tester.
Ne plus les tester, mais le critiquer. Et voir faire des analyses.
Salut les joueurs, salut les joueuses, salut la Proxy Team. Tout d'abord, une très bonne année 2016 à tous les joueurs. J'espère qu'elle sera ludique, qu'elle vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des jeux dans votre ludothèque et dans celle de vos amis ou de votre association. Pour le premier épisode de l'année, je ne vais pas aller sous le buzz. Au contraire, je vais m'immerger à fond dedans puisque le jeu que j'ai choisi comme meilleur jeu pour l'année 2015 est actuellement premier au classement BGG. Il s'agit de Pandémie Legacy. J'imagine que vous avez entendu parler de Pandémie Legacy depuis qu'il est sorti au mois d'octobre à Essen. Je vais pas vous refaire tout le pitch du Legacy, je vais vous expliquer pourquoi pour moi ce jeu-là est mon jeu de l'année 2015. Bah, c'est parce que c'est une expérience ludique assez incroyable. J'en suis au mois de mai, j'ai décidé de faire la campagne avec ma femme, donc on est deux joueurs. J'ai jamais vécu ces choses-là en jouant à un jeu. Le fait que le jeu se joue comme des épisodes d'une série, avec à chaque fois, à chaque début de partie ou fin de partie, selon les cas, ou même en cours de partie, il se passe des choses qui modifient complètement les règles, qui agrémentent les règles, qui changent la façon de jouer, font que je pense que c'est vraiment une expérience totalement unique dans le marché du jeu de société actuel. Sans dévoiler, sans spoiler autre chose que ce qu'on peut trouver dans les règles, le plateau de jeu évolue, vous êtes obligé de coller des petits stickers sur les villes dans lesquels il se passe des éclosions. Les personnages que vous utilisez évoluent aussi avec trois types d'évolutions possibles. En fin de partie, vous pouvez ajouter des compétences spéciales à vos personnages. Vous pouvez également créer des relations entre les personnages, des relations familiales, amicales ou des relations de rivaux. Vous devez également ajouter des cicatrices à vos personnages lorsque ceux-ci se trouvent dans une ville où il y a une éclosion. Les cicatrices vont empêcher les personnages de faire des actions. Par exemple, ça vous coûtera peut-être une action de plus pour faire traiter une maladie, ou vous aurez besoin d'une carte en plus pour trouver un remède. Et bien sûr, les améliorations, à l'inverse, vont faciliter les choses en donnant des petits bonus à ces personnages. Vous avez le droit donc de perdre une fois par mois. Donc le jeu va se dérouler entre 12 si vous ne perdez jamais et 24 parties si vous perdez à chaque mois. Sachant que si vous reperdez une deuxième partie pour un mois donné, vous passez tout de même au mois suivant. Le fait de perdre une partie dans Pandemic Legacy fait que en fait, vous allez avoir un petit peu plus de cartes événements. Vous avez un bonus de deux cartes événements supplémentaires pour la partie suivante. Sachant que si vous gagnez, par contre, vous avez un malus de deux cartes événements en moins pour la partie suivante. Le fait de jouer plus de parties fait que le plateau évolue un peu plus vite puisque vous aurez plus de stickers sur les villes où il y a eu des éclosions. J'en suis arrivé au mois de mai. Pour l'instant, on a perdu le mois de mai. Il faut qu'on refasse notre deuxième partie du mois de mai. Et je suis content finalement d'être un peu en retard sur cette chronique parce que j'allais vous dire que je trouvais le jeu relativement simple à deux joueurs. Et c'est vrai que jusqu'au mois d'avril, le fait de jouer à deux est plutôt un bonus parce qu'on maîtrise mieux le jeu. Et par contre, à partir du mois de mai, il se passe des choses qui font que en fait vous avez des objectifs à résoudre. À partir du mois de mai, il ne faut plus résoudre deux objectifs mais trois. Et le fait d'avoir d'une part d'avoir trois objectifs à résoudre plus, on va dire, le scénario du jeu qui se déroule, font que ce serait plus agréable d'avoir plus de rôles, de jouer plus de rôles et de pouvoir, être plus nombreux sur le plateau avec plus de compétences. Parce que là, deux joueurs avec deux rôles, c'est relativement compliqué de résoudre les trois objectifs. Donc peut-être que les parties suivantes, on choisira avec ma femme qui joue avec moi sur cette campagne, de jouer deux rôles chacun. Beaucoup de questions se posent justement autour de la structuration des équipes. Alors, sachez que vous n'êtes pas obligé de vous engager à faire la campagne complète avec le même groupe de joueurs. Vous pouvez inclure ou exclure des joueurs en cours de campagne. Le mieux est de rester quand même avec un noyau dur qui va suivre l'évolution du scénario, mais en tout cas vous pouvez faire une partie à deux, une partie à trois, une partie à quatre, faire une campagne à trois et puis un soir donné inviter une quatrième personne à se joindre à vous, ou jouer à deux et jouer deux rôles, puis un rôle chacun, puis deux rôles chacun. Voilà, c'est complètement évolutif là-dessus. Vous pouvez même changer de personnage à chaque changer de personnage, et d'ailleurs on vous incite à le faire parfois entre chaque partie, sachant également que les personnages, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que s'ils ont une troisième cicatrice, ils meurent. Et donc vous ne pouvez pas les utiliser sur le reste de la partie. Voilà, donc une vraie expérience. Je pense que ça m'a donné envie d'essayer également Time Story, qui a l'air d'être assez original en termes de sensation de jeu. En tout cas, ce Pandemic Legacy est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vécu au niveau des jeux de société. Ça arrive à vous titiller comme une série télé, tout en faisant travailler vos neurones comme un jeu de société normal. Je vous le conseille vivement. Il doit se trouver à peu près partout, au prix de, je pense que c'est dans les 50-60 euros, et vous ne regretterez pas votre achat. Il y a assez peu de jeux, quand je regarde ma ludothèque, auxquels j'ai fait plus de 12 parties, donc je pense que c'est vraiment pas, faut pas compter en disant bah, c'est du one shot. D'autant que rien ne vous empêche, avant de lancer la campagne, de faire autant de parties du Pandémie normal que vous voulez sur la base du plateau de jeu. Alors il y a juste une liaison ou deux qui est un peu différente, mais ça ne remet pas en cause les règles du jeu de base. Et je dirais que, alors j'ai pas vécu le mois de décembre, mais j'ai l'impression que à la fin du jeu, vous pouvez faire autant de parties que vous voulez du mois de décembre. Il suffira de pas modifier le plateau de jeu. Vous pouvez même vous arrêter et faire autant de parties que vous voulez d'un mois donné, tant que vous faites pas évoluer le plateau de jeu. Donc c'est mon jeu de l'année 2015. Il y en a eu beaucoup d'autres qui m'ont plu. Je trouve que 2015 était, depuis que je rejoue aux jeux modernes depuis 2007-2008, 2015 est sans doute l'année où il y a le plus de jeux que j'ai beaucoup appréciés qui sont sortis. Je regarde là dans la ludothèque, mais je vois les Barony, les Seven Wonders Duel, les Shakespeare, les Aspelnert, l'Auberge Sanglante, enfin, notamment sur Essen. Ça a été vraiment une pléthore de très très bons jeux. J'espère que 2016 sera du même acabit. Et d'ici là, découvrez Pandemic Legacy et jouez bien.
Que ce type de jeu, ça vous donne des idées?
Oui, ouais, ouais, moi j'aime bien.
Ça te donne des idées de jeu?
Oui.
Pour créer?
Ouais.
Ouais. Ouais. Mm. T'as des choses là auxquelles tu...
Ben oui.
Kemet Legacy.
Alors
peut-être.
Non, mais plus un jeu basé sur l'ambiance, effectivement, avec des petites figurines. Je suis en train de avec un ami de développer. On a une petite idée. On va voir ce que ça donne. On a un thème. Voilà. J'en parle pas trop parce que ça reste à l'état embryonnaire pour le moment. C'est juste une question de temps. Mais par contre, l'idée de développer ce type de jeu, oui, m'attire. Moi,
alors, ce type de jeu, dans l'aspect effectivement évolutif, expérience de jeu unique, et du coup,
non, plus jeu
de vie limité ou...
Non, jeu à scénario plutôt.
Un scénario.
Voilà, avec un petit scénario que tu peux. Alors après, est-ce que les scénarios vont se succéder comme dans le Star Wars Assaut sur l'Empire, ou alors est-ce qu'ils vont être indépendants? Ça, je ne sais pas.
D'accord.
Mais voilà, comme dit, c'est encore à l'état de projet de départ. On fixe déjà un cadre, mais c'est vrai que ça m'attire.
Ok. Voilà. Et toi, Guillaume, du coup, qui est très dans cette vague jeu de rôle, tout ça, ça
ouais,
donne des idées.
Moi, spontanément, oui, ça me donne des idées, mais je désespère pas un jour de réécrire du scénario de jeu de rôle Grandeur Nature, hein, par exemple. Ce que je veux dire là, c'est que ça m'a toujours donné des idées. C'est pas le fait qu'il soit sorti quelques jeux qu'on peut rentrer dans cette catégorie qui me fait plus. Pencher la balance ou pas sur ce type d'expérience.
Est-ce que du coup ça te motive plus peut-être? Le fait de voir qu'il y a un marché. Enfin, quand tu regardes le Time Stories, c'est un bon succès.
Ouais, ouais.
Pandemic Legacy, je pense que c'est en train d'exploser tout. Il est deuxième au classement BGG. Sur un top 100, je veux dire, le jeu il est sorti.
Un jeu sur la chiasse,
c'est que tu.
Oui, tout à fait. Il est sorti à Essen, il est déjà deuxième dans le classement BGG, juste derrière Twilight Struggle.
Ouais, alors.
C'est pour ça qu'on a perdu une place avec Kemet.
En même temps, c'est pas cette motivation-là qui, je pense que tous les auteurs de jeux te feront le discours, et je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus. C'est pas non plus ça qui nous pousse à faire. C'est pas on se dit c'est en train de marcher, et putain, il faut qu'on rentre là-dedans. Je pense que la démarche est beaucoup plus sincère en termes d'envie finalement que ça marche ou que ça marche pas. Moi, j'ai écrit des scénarios de jeux de rôle grande nature pour mes potes. C'est-à-dire, je sais que ça sortira jamais. C'est pas une histoire de ouais, ok, ça va être trop super, j'en vends des caisses. Donc du coup, le fait que c'est eu un succès, c'est tant mieux. Évidemment, ça fait toujours énormément plaisir de te dire il y a X personnes qui ont joué à mon scénario. C'est sûr, mais je pense que c'est pas la motivation première. Enfin, vraiment, je dis pas ça comme ça
sans parler d'argent. Hein. Il y a une reconnaissance du public, je pense. Quand on est auteur de jeu, on est d'accord que on n'attend pas de devenir millionnaire en étant auteur de jeu. Mais la reconnaissance du public peut suffire à se dire bon, voilà, mon jeu, c'est un concept peut-être il y a 5 ans qui n'aurait pas pu être développé parce que au final, je vais pas en retirer beaucoup de retours, ça motive pas du coup pour y aller. Et là, ah mince, je me dis, peut-être un petit effet de mode et tout. Allons-y quoi, sortons mon idée que j'avais il y a 5 ans et fonçons.
C'est vrai, mais bon, j'ai pas d'idée d'il y a 5 ans sur le sujet.
Il y a 6 ans si tu veux.
Ça, je peux la ressortir effectivement. Mais ouais, non, t'as raison. Le fait que ça fonctionne maintenant. Forcément, ça va entre guillemets peut-être pas pousser des vocations, mais les gens vont oser quoi proposer ce type de jeu aux éditeurs, ce qui était peut-être pas effectivement le cas précédemment.
J'ai le sentiment que cette année 2015, c'est l'année du débridage quoi. Débridage sur le matériel, hein, c'est pour ça que j'en parle. Le Kickstarter qui explose complètement, donc qui permet d'effectivement de sortir des jeux comme tu le disais, Jack, sans trop regarder. Maintenant, on regarde plus si le jeu est éditable ou pas, on fonce quoi. Non, c'était Guillaume.
C'est moi, ouais. Quand il y a quelque chose de brillant qui est dit, c'est généralement moi.
Le matériel 3D, donc les figurines pléthore dans les boîtes, des concepts de jeu sur lesquels on dit les gens ont été frileux, ils n'auraient pas acheté, on se rend compte qu'ils y vont.
Que ça marche.
Voilà quoi, j'ai l'impression qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent en 2015.
Bah, du coup, effectivement, et pour un auteur, c'est un bonheur, quoi, parce que tu te poses vraiment plus aucune, ce serait peut-être faux de le dire, mais moins de questions.
Moins de questions.
C'est-à-dire que tu peux te lancer dans un projet en te disant potentiellement, ça va intéresser quelqu'un à un moment donné, je vais pas juste jouer avec mes potes autour de la table, quoi. Donc ouais, ça c'est vrai que c'est une vraie tendance, je suis d'accord avec toi.
Salut les joueuses et salut les joueurs. Je souhaite avant tout à vous souhaiter une excellente année 2016. Alors pour ma découverte de 2015, je vais vous parler d'un petit jeu qui est édité chez Yellow dans la gamme des minigames et qui s'appelle Welcome to the Dungeon. L'auteur du jeu est Masato Wuzeki. Le jeu est jouable de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et la durée d'une partie est d'environ 30 minutes. Alors le jeu va se dérouler en plusieurs manches durant laquelle le but des joueurs et de traverser et de sortir victorieusement d'un donjon qui va être peuplé d'un certain nombre de monstres. Alors d'abord, les joueurs vont se mettre d'accord sur le héros qui va être incarné. On a le choix entre incarner un voleur, un mage, un guerrier ou un barbare. Tous les joueurs incarnent le même héros. Mais en réalité, un seul des joueurs va prendre le contrôle de ce héros pour tenter de traverser le donjon et de survivre. Les différents types de héros n'ont pas le même nombre de points de vie et ils portent chacun des armes et un équipement distinct. Une manche de jeu va donc se dérouler en 2 phases. On aura d'abord une première phase qui va être assimilée à une phase d'enchère dans laquelle on va tirer une carte, un monstre, et soit on aura la possibilité d'alimenter ce monstre dans le donjon, ou alors on aura la possibilité de retirer le monstre. Mais si on retire le monstre, il va falloir sacrifier un des équipements du héros. Si jamais on juge que la situation est trop périlleuse, on a la possibilité de renoncer à la traversée du donjon, auquel cas on ne participe plus à cette manche. Dès qu'il ne reste plus qu'un seul joueur en jeu, on passe à la phase du donjon. On va alors dépiler l'ensemble des cartes monstres qui sont présentes dans le donjon. Si jamais un monstre n'est pas neutralisé grâce à un des équipements, eh bien il va infliger un certain nombre de points de dégâts au héros. Si à la fin de la traversée, le héros a encore des points de vie, eh bien il a réussi son défi et il gagne une première carte victoire. Si jamais le total des dégâts encaissés est supérieur au nombre de points de vie, eh bien, il a malheureusement raté son défi, et il va perdre une de ses 2 vies. Si le joueur a remporté sa 2e carte victoire, eh bien, il remporte la partie. Si jamais le joueur a perdu sa 2e vie, eh bien, il est éliminé. Le jeu propose un savant mélange de bluff, d'enchères et de stop ou encore. Ainsi, on va avoir différentes stratégies possibles. Soit on va partir sur une stratégie gagnante dans laquelle on va tenter coûte que coûte de pouvoir traverser le donjon, soit au contraire on peut partir sur une stratégie un petit peu plus fourbe où on va volontairement alimenter le donjon avec des monstres très puissants tout en sacrifiant les équipements qui permettent de les ignorer, avec bien sûr l'objectif d'abandonner la manche aux moments opportuns, afin qu'un des autres joueurs rate la traversée du donjon. Welcome to the Dungeon est un petit jeu très efficace qui tient totalement sa place en introduction d'une grosse soirée ludique. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles chroniques Top 500 BGG en 2016 et d'ici là, jouez bien.
Si on continue le paysage ludique 2015 sur les jeux qui ont marqué l'année,
qui ont buzzé
à notre sens, Mysterium.
Je sais pas si vous avez joué.
Sa
pas joué malheureusement.
Dixit revisité entre guillemets.
Ouais. J'ai joué. Bah, comme tu dis, c'est une mécanique Dixit revisité. Dixit, j'avais pas plus accroché que ça. Mysterium, c'est quand même, à mon sens. Alors, tu vois, on dit que j'aime pas les jeux immersifs, c'est pas vrai. Parce que Dixit, enfin, Mysterium,
gêne,
pour le coup, ouais, je fais du gêne. Ouais. Mais pour le coup, il y a un côté immersif. En tout cas, on te raconte plus une histoire que n'était Dixit. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment agréable. Et puis, le jeu est super beau, quoi, en fait, au final.
Il est bien édité, hein.
Ouais.
Moi, je l'ai juste vu, mais c'est vrai que c'est vraiment beau, hein. Ouais.
Et toi Stéphane, qu'est-ce que t'en penses de Mysterium? T'es fan, je crois aussi.
Ouais, moi j'aime beaucoup. J'ai réussi à y jouer avec ma famille qui ne joue absolument pas. Rien que ça, déjà, c'est quand même beaucoup. Ils étaient beaucoup plus refroidis par Dixit. En fait, je les avais fait jouer à Dixit. Et Dixit, faut quand même réussir à sortir une phrase, quelque chose. Enfin, il y a une réflexion à avoir qui est pas si simple qu'on pourrait le croire, quoi.
Ouais, ça demande d'imagination.
De l'imagination,
quand même,
voilà. Alors que Mysterium, tant qu'on joue pas le fantôme, entre guillemets, il y a moins ce côté imagination et puis c'est
plus accessible. Donc
Mysterium a un petit côté Cluedo, quoi, qui ouais. Du coup parle à tout le monde, puisque tout le monde jeune a potentiellement joué à une partie de Cluedo, donc du coup il y a ce côté là qui rassure quelque part et qui permet du coup d'entrer dans le jeu beaucoup plus facilement.
Ouais,
merci.
Et Seven Wonders Duel, vous avez joué?
Moi non. Alors, je vais vous dire souvent non parce que on a passé tellement de temps à tester Tassetti que les autres jeux. Malheureusement, les soirées jeux étaient souvent. Guillaume en fait plus que moi, je pense, des soirées jeux. Ouais, donc lui, il a peut-être plus l'occasion.
Bah, j'y ai joué. Tu sais où j'y ai joué?
À Essen.
Parce que c'était juste en face de Matago. Ouais. J'ai perdu, donc c'est un jeu de merde.
Ouais.
Non, j'ai trouvé ça vraiment bien. Enfin. Après,
le mécanisme d'empilement des cartes en pyramide, ouais. ça a dû te parler.
Ça a dû te parler. Bon, après, j'ai une seule partie dans les pattes au final, mais j'ai bien aimé justement dans les pyramides le fait qu'il y a un système où des cartes sont retournées,
certaines
d'autres
sont
pas.
Cachées, voilà.
Et ça, c'était plutôt sympa. Et c'est hyper fluide, ça se joue vite.
Ouais, ça tourne bien.
Enfin, voilà, quoi, il n'y a pas vraiment de faux pas là-dessus. Quoi.
Tu aimais déjà Seven Wonders?
Pas plus que ça.
Pas plus que ça.
Bah, j'ai eu une grosse période et je me suis lassé. Bon, après, tu vas me dire.
T'as fait 24 parties. Parties de Seven Wonders.
En fait, c'est exactement ça. Le mec, il dit ouais, pas trop, j'en ai fait que 200 parties. Et finalement, au bout de la 201ème, j'ai senti une petite lassitude. Bah, c'est un peu ça, quoi. Voilà.
Moi, j'ai été bêta-testeur de l'appli. Et alors, ouais. Quand t'as pas à manipuler les cartes, bah, vraiment, t'enchaînes les parties. Hein, ça, c'est clair. Et tu commences. Mais effectivement, c'est un jeu qui a une courbe de progression, du moins d'apprentissage assez importante, puisqu'après tu sais quoi prendre, alors que au début je prenais que des raclés. Ouais, et donc, ouais.
Mais Seven Wonders, c'est sorti il y a combien de temps? Il y a au moins 5, 6 ans?
Oh, ouais, au moins.
Bah, ça fait longtemps que j'ai pas joué, il faudrait que j'y rejoue. Ouais. Mais j'ai eu une grosse période. Mais c'est comme si tu me demandais, t'as mis à Magic, je dirais ouais, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas joué, je pense que si je m'y remettrais, si je m'y remettais, ça doit être la même chose pour Seven Wonders.
J'ai 2-3 préconstruits si tu veux.
Allez, vas-y.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, et bonne année, je suis Cyrus. En ce début d'année, il nous a été proposé de présenter un de nos jeux coup de cœur 2015. J'ai décidé de vous parler de Perz. Perz, c'est un jeu qu'on a découvert au printemps 2015, grâce à Courju, qui nous a présenté ce jeu lors du week-end proxy jeu. C'est un petit jeu de cartes, édité chez Cheapass Game, donc à la base, c'est un jeu disponible uniquement en print and play. Il s'agit d'un jeu basé sur un deck pyramidal. C'est-à-dire que dans ce deck de cartes, vous allez avoir une carte de valeur 1, 2 cartes de valeur 2, 3 cartes de valeur 3, ainsi de suite, jusqu'à 10 cartes de valeur 10. Le principe du jeu, en fait, est de ne pas faire de paire. Et plus que ça, l'originalité, il n'y aura pas un vainqueur, mais uniquement un perdant. Le principe, en fait, va être de ne pas atteindre un score qui est fonction du nombre de joueurs. Par exemple, à 4 joueurs, il ne faut pas dépasser 16 points. Comment ça fonctionne? Chaque joueur va avoir une carte en début de jeu. C'est le joueur qui a la carte la plus petite qui va démarrer. Et à chaque joueur, on va proposer en fait de prendre une carte supplémentaire. Donc en fait, il y a une sorte de croupier, il y a un joueur qui joue et qui va en même temps distribuer les cartes, ce qui donne un petit côté blackjack au jeu. Les joueurs vont jouer chacun leur tour et le donneur en fait va offrir deux possibilités aux joueurs. Soit il va devoir prendre une nouvelle carte, donc le donneur va lui donner une carte. Et dans ce cas-là, l'objectif est de ne pas faire de paire. Donc il va falloir faire attention aux cartes qu'on a devant soi déjà, puisqu'évidemment si on a déjà un 6, un 7 et un 8 devant soi, on a beaucoup plus de chances de faire une paire que si on a un 3 et un 4 devant soi. Donc si le joueur fait une paire, il va défausser toutes ses cartes, c'est le cas également des autres joueurs. Il va prendre une des cartes qui était dans la paire et marquer le nombre de points correspondants. Et on démarre une nouvelle manche. Si le joueur ne fait pas de paire, c'est au joueur suivant de jouer, qui se voit à nouveau proposer deux choix, soit prendre une nouvelle carte et risquer de faire une paire, soit donc le deuxième choix qui est d'abandonner. Dans ce cas-là, il va défausser toutes ses cartes. C'est le cas également des autres joueurs. Et marquer le nombre de points, prendre en fait la carte la plus petite autour de la table et marquer le nombre de points correspondant. Voilà. Donc il y a en fait, c'est vraiment un jeu de comptoir, c'est un très bon jeu de comptoir dans lequel on va enchaîner les parties. C'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de variantes. Alors, il y a des variantes avec exactement le même principe de jeu. Typiquement, la variante du jeu en continu qui va faire en sorte que les joueurs ne défaussent pas leurs cartes à chaque fois qu'un joueur fait une paire. Donc les gens vont tous garder leurs cartes sauf la personne qui a fait la paire ou qui a volontairement abandonné. Et en fait, il y a un peu de stratégie parce que à un certain moment, il va pas forcément être pertinent pour nous d'abandonner, parce que finalement on a peu de chances de faire une paire, mais il peut être beaucoup plus intéressant quand même d'abandonner et prendre une petite carte qui aiderait un joueur qui est déjà en difficulté, et donc le priver de cette petite carte, alors que cette petite carte va finalement peu impacter notre score. Donc c'est assez fourbe, et on va beaucoup chercher à provoquer les adversaires pour qu'ils prennent des cartes à un moment où clairement ce ne serait pas très malin de prendre une carte. Voilà, donc ça met vraiment une bonne ambiance autour de la table. On va enchaîner les parties. Le but va être vraiment d'essayer de faire tomber le joueur qui a réussi à tenir. Voilà, on a parfois des jolis retournements de situation. C'est vraiment très très fun. Et vous l'aurez compris, je vous le recommande. D'autant que si vous n'êtes pas très habile de vos mains, la bonne nouvelle arrivée à Noël, c'est que le jeu est désormais disponible à l'achat. Donc vous pourrez le trouver pour 10€ chez Philibert. Il existe plusieurs variantes graphiques du jeu, hein. Ça reste le même jeu, mais vous allez pouvoir trouver plusieurs habillages. Donc Pairs, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, un jeu de Paul Peterson et James Ernest, disponible en anglais. Il existe un wiki sur lequel on trouve des traductions en français. Il existe également d'autres PDF disponibles sur Board Game Geek, typiquement. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine, et d'ici là, jouez bien.
Et les jeux, alors je pense pas que vous y avez joué parce qu'il n'est pas encore sorti, mais World of Yo, que vous en avez entendu parler.
World of quoi ?
World of Yo, un jeu où on a un plateau et où le pion c'est ton téléphone, c'est sur ton
Il y a plusieurs iPhone. Jeux qui utilisent des téléphones, non ? Il y a eu un Kickstarter d'ailleurs, il me semble.
Bah justement, c'était un Kickstarter World of Yo, et en fait, pour déplacer ton bateau, tu déplaces ton téléphone.
Ils ont fait un plateau par type de téléphone ?
Non.
Ils n'ont pas tous la même taille.
Non, ouais, mais ils ont fait un plateau.
C'est pas Farid Ben Salem qui a fait ce truc-là ?
Si, tout à fait.
Et Etienne Miller.
Donc non, je connais pas.
Non, mais j'ai pas joué.
Donc pareil. Et j'aime pas trop. C'est vrai que.
Mais qu'est-ce que vous en pensez
de. Etienne Miner, il est de la famille de Jean Miner ou pas du tout?
On lui demandera.
On va lui poser la question. Alors vas-y, t'avais une vraie question, pardon.
J'avais une vraie question. Oui, mais le crossover avec les applis et dans le jeu de société, vous en pensez à quoi? Ça vous fait peur? Ça vous fout.
Non, bah non, c'est une évolution normale du.
C'est pareil, tu t'adaptes. Ça permet des choses.
Rien qu'avant-hier soir. Nous avons joué à Rebelle d'Assaut et on a fait un crossover entre mon iPhone qui faisait des cris de Chewbacca et. et des.
Ouais, voilà.
Et à chaque fois qu'on ouvrait une porte,
c'était
It's a trap! It's a trap!
Ah, mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite opposition jeu vidéo, jeu de société. C'est parce qu'effectivement, jeu vidéo, t'es tout seul devant soit ta TV, soit ton ordinateur et tu joues avec des gens virtuels ou alors avec des gens qui sont à 100 km de toi. Alors qu'on disait, ouais, le jeu de société, au moins t'es autour d'une table, il y a le côté humain.
Mais là, t'es autour d'une table, mais avec.
Ouais, oui, tout à fait. Mais je pense que c'est un rapprochement naturel. Bah, c'est du jeu.
Bah,
donc,
ça permet des calculs. Moi, je trouve que ça permet des calculs. Il y a certains jeux que je joue en ligne.
Ah, il faut avoir option calculatrice sur le téléphone alors.
Non, mais les jeux qui sont en ligne avec des calculs préfaits par rapport au nombre de points et tout ça, c'est quand même plus agréable que d'avoir à compter tes points.
Ah oui, sur ce point-là, c'est-à-dire que la technique vient t'aider.
C'est aussi une question de enfin, l'idée, c'est de pas en faire juste un gadget, quoi. Il faut que ce soit un vrai apport au jeu. Et donc, du coup, comme ça existe, j'imagine que les auteurs, pareil, ils sont plus bridés dans leur imagination par ça. J'ai joué à un jeu comme ça où tu devais faire des potions, je sais pas comment ça s'appelle ce jeu.
Alchimiste.
Potions, ça s'appelle.
Et tu joues avec ton smartphone. Pour,
Ça s'appelle Potions sur smartphone. Ouais.
Candy Crush, c'est ça.
Ouais. Et c'était complètement naturel. Enfin, pour moi, c'était un élément du jeu comme un autre. C'était complètement transparent. Et bon, sauf que tu avais effectivement. Donc, je crois que tu photographies tes deux ingrédients pour savoir ce que ça donne comme potion. Donc voilà, ça c'est typiquement. Je pense que le jeu il doit être possible quand même sans le smartphone.
Oui, peut, mais du coup, il faut un maître de jeu.
Ah oui, il faut un maître de jeu. Voilà. Ça évite
quelqu'un qui résolve les potions.
Bah du coup, voilà quoi. C'est juste génial.
Non, mais même, je trouve que les jeux de deck building, par exemple, qui sont très fastidieux avec la manipulation des cartes, quand c'est sur une tablette, bah, tu joues beaucoup plus volontiers parce que tu n'as pas à mélanger. Voilà. Par contre, effectivement, tu n'as pas les cartes, tu n'as pas le côté sensitif des cartes. Donc là, c'est effectivement la tablette, notamment dans le cas genre, c'est un outil, ouais. Mais pour faciliter, ça n'apporte pas grand chose en termes de jeu. Mais c'est quand même bien.
Dans World of Yo, l'apport, en partie, hein, effectivement, j'ai pas à jouer, c'est que le jeu va se moduler, c'est un système de missions en fait, qui vont être attribuées aux joueurs, et du coup, il est possible, grâce à l'intelligence artificielle, de confier des missions qui vont aller à l'encontre du joueur en tête, typiquement. Donc, rééquilibrer le jeu en cours de partie, finalement.
Ouais. Ouais, mais oui, très bien. Mm. Oui, donc ça.
Après, est-ce que ça ne devient pas du jeu vidéo par rapport à ça? On peut se poser.
Alors, moi je connais pas, mais vous avez juste le téléphone sur votre table et le téléphone en fait vous propose des options qui permettent de rééquilibrer ou en tout cas d'orienter le jeu, si je comprends bien. C'est ça?
Non, il te propose des missions. En fait, tu peux. C'est un jeu de pirate où tu te déplaces d'île en île et tu peux aller sur une île, prendre une mission et la mission va aller à l'encontre de la mission d'un autre joueur.
D'accord.
Donc le
jeu compense éventuellement
C'est aussi un peu ce que pourrait faire un AMJ qui dit voilà, je te donne 7 missions. Dans le jeu de rôle, il peut dire je te donne 7 missions parce que je sais que ça va. Pour créer une interaction. Quoi.
Ouais. Au final, que ce soit un smartphone ou un CD, ça ne change pas grand chose. C'est un outil que tu peux utiliser dans ton jeu.
Ouais.
Après, comme atmosphère, avec
la
cassette de. Je suis le maître des clés.
Ou tout simplement un dé. C'est là pour résoudre un problème. Hein. Tu lances le dé, le 6, il va donner une solution différente au 1. Là, ça va être un smartphone. C'est plus intelligent, c'est plus adapté. Après, pour moi, non, c'est un compagnon.
La difficulté du smartphone, c'est l'auteur. C'est-à-dire, en gros, est-ce que pour intégrer ton jeu, tu dois pouvoir programmer, créer ton appli avant? Ce qui n'est pas donné à tout le monde.
Il y a un gros travail de développement.
L'auteur, alors je sais pas s'il y a un auteur, s'il y a une équipe d'auteurs, etc. Mais en gros, ils ont dû travailler ensemble dès le départ du jeu.
L'idée, c'était au départ ça. Donc il y a pas, c'est pas venu après.
C'est pas le mec qui est venu avec un proto en disant ah tiens, on pourrait rajouter un smartphone. C'est vraiment le smartphone qui était au cœur du jeu. Donc ça veut dire que l'auteur au départ, il avait accès à ce genre, ce qui est a priori pas donné à tout le monde. En tout cas, pas à moi, par exemple.
En autant que moi, j'ai eu une expérience cinéma avec un smartphone aussi. Un film qui avait été.
T'as tweeté pendant le film, quoi. Super. Ou t'as répondu au téléphone durant le film.
Justement. Pour aller voir le film. Alors, c'était dans le cadre d'un festival de films fantastiques. Et donc, avant le film, on vous demande de venir avec votre smartphone et de télécharger une appli spécifique. Et en fait, des signaux sont envoyés pendant le film qui vont faire réagir votre téléphone. Et en fait, vous allez avoir des scènes annexes ou alors des trucs à faire sur votre téléphone qui seront en lien avec le film. Donc, effectivement, le film est tourné d'une telle manière qu'au moment où vous regardez votre smartphone pour voir ce qui se passe, ben,
il ne se
passe pas rien d'intéressant en tout cas. Il y a quand même des personnages, mais on ne va pas faire écran noir. Alors, c'était pas exceptionnel, mais l'idée était vraiment sympa. Quoi. Voilà. Mais donc, voilà, c'est un autre domaine où le smartphone envahit notre vie et pourquoi pas le jeu, quoi. Mm-hmm. Tout simplement.
On a une interview d'Etienne Mineur en fait, qui a été faite par Blue Blue Blue. Je pense qu'elle sera diffusée avant cette émission. Du coup, si ça vous intéresse,
ou peut-être qu'il y aura du retard comme
sur quoi sur Proxy Jeux.
Oui, tout à fait. D'accord. Proxy Jeux.
Très bien.
C'est payant. Il faut donner des sous là.
Non, c'est gratuit. Tu peux écouter gratuitement.
Tu peux écouter gratuitement. Mais c'est mieux de payer.
C'est mieux de payer parce qu'on sacrifie un petit. Il y a un petit lapin qui meurt à chaque fois que tu écoutes gratuitement.
Ça va.
Il faut payer. C'est quand même mieux.
Ça nous permet d'acheter du matériel.
Tu m'étonnes. On n'a pas parlé du contrat de location pour le moment, mais bon. Question. Au fait, t'as appuyé sur REC, au fait? Mais je me pose la question.
Il faut qu'on refasse tout.
Attends, moi, j'ai un vieux doute. Hein.
Ouais. Si, il me semble. Il y a le bouton rouge qui est allumé. Donc, je pense que je suis allé regarder tout à l'heure. Il me semble.
Il
est on air parce qu'on passe.
Ça aurait été bon, ça, quand même. Ouais.
Moi, après, tant qu'on n'a pas arrêté l'émission, j'ai un doute aussi.
On verra.
Ouais, on verra après.
C'est le suspense.
Sinon, ceux qui ont écouté en direct, ils auront une émission one shot.
On verra après, on verra après.
Ils pourront revendre leurs souvenirs sur eBay. Très très cher.
Que à Johnny Mnemonic. Non, c'était quoi le film?
J'ai pas vu. Je vois le film dont tu parles.
Avec Kenny Reeves.
Ouais. Keynes.
Keynes.
Keynes. En Alsace. Keynes Reeves.
Clic, ploc, clic, ploc, clic, ploc. Ça va trancher, chérie.
Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher.
Ah bon?
Mais oui, t'étais où pendant le film, toi?
Ah mais non.
Je vous avais prévenu, ça va trancher.
Salut les joueurs, salut les joueuses, ici Courju. Alors, pour ce jeu de l'année 2015, selon Courju, je vais vous parler de Tricarion. Tricarion, c'est un jeu qui a été kickstarté dans le courant de l'année et pour lequel donc les auteurs ont décidé de laisser les fichiers disponibles en print and play. Alors il s'agit d'un gros jeu à fabriquer avec un plateau de jeu, double face, des plateaux individuels, beaucoup de cartes, des jetons, etc. Pour moi, il a été pendant longtemps dans ma wish list. J'avais envie de le faire, mais il y avait vraiment beaucoup de travail et il y avait un gros travail de traduction à faire aussi. Et finalement, quand j'ai vu que quelqu'un l'avait traduit, qu'il était disponible en français, ça a été pour moi le coup d'envoi et j'ai dit « Allez, go, je le fais ». Alors Tricarion, c'est un jeu de pose d'ouvrier avec quelques subtilités et dans une thématique très particulière. Donc je vais vous parler justement de cette thématique d'abord, puis ensuite je vous dirai un peu les différentes particularités de ce jeu. Donc la thématique de Tricarion, c'est un univers un petit peu victorien, alternatif, dans laquelle les joueurs vont incarner des illusionnistes, des magiciens, qui vont devoir donner le meilleur spectacle possible. Et en fait, l'histoire, c'est que le grand mage de la ville qui a disparu revient pour nommer son successeur. Et le successeur en question pourra avoir la pierre de Tricarion, qui est donc une pierre qui, a priori, donne des pouvoirs surnaturels à son possesseur. Du coup, la thématique est vraiment originale pour un jeu à l'allemande, entre guillemets, et la thématique est très très bien rendue par les graphismes, par le plateau, et toute la mécanique aussi. Concernant cette mécanique, justement, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous donner quelques petites subtilités qui font que ce jeu est différent des jeux de poste d'ouvrier que nous connaissons déjà. Alors la première subtilité, c'est que les zones sur lesquelles les actions vont être effectuées, justement, il y a des zones, c'est-à-dire que chaque action appartient à une zone particulière, et donc elles sont comme ça regroupées entre elles. Et avant de poser leurs ouvriers sur le plateau, les joueurs vont avoir une phase de planification qui va se faire secrètement, où les joueurs vont décider dans quelle zone ils vont envoyer chacun de leurs ouvriers. Ensuite, cette planification est révélée, et là les joueurs, l'un après l'autre, vont aller placer leurs ouvriers sur une action. Du coup, évidemment, en fonction des zones vers lesquelles les autres joueurs ont déclaré vouloir aller, vous avez une bonne idée des actions qu'ils vont vouloir faire. Mais dans chaque zone, il y a plusieurs actions, donc vous ne pouvez pas savoir exactement à l'avance ce que la personne elle va faire. Deuxième subtilité concernant la pose des ouvriers. Chaque ouvrier dispose d'un certain nombre d'actions et les points sur lesquels on peut se placer sur le plateau disposent aussi d'un bonus en points d'action. Donc concernant le plateau, tout simplement, le premier arrivé aura un bonus sur les actions de cette zone, le second aura un bonus un peu plus faible, etc. Et concernant les ouvriers, donc il y a des ouvriers qui ont juste pour en faire une action, deux actions, trois actions. Et le coût des actions est représenté sur le plateau. Par exemple, récupérer un nouvel ouvrier, donc faire une embauche, c'est trois actions. Donc on peut éventuellement le faire avec un ouvrier qui n'a qu'une action à condition d'être le premier et donc de bénéficier du bonus de plus 2. Du coup, avec cette double subtilité de « il faut être le premier arrivé pour avoir le bonus », chaque ouvrier a un certain nombre d'actions qui lui sont affectées et il y a une programmation qui est faite en cachet, il y a une tension assez forte concernant la pose d'ouvrier, même si les actions ne sont pas occupées comme dans un Agricola par exemple. Ensuite, deuxième subtilité qui là est plus thématique, il y a une zone particulière qui est la zone du théâtre, là où on va préparer le spectacle et jouer le spectacle. Et sur cette zone-là, les joueurs vont avoir le choix, quand ils se placent, enfin, le premier arrivé, va avoir le choix entre prendre un bonus en nombre d'actions, mais qui du coup lui donnera moins de points, il fera gagner en fait moins de choses, ou au contraire, prendre un malus en nombre d'actions, mais qui lui fera gagner plus de choses. Donc ça, c'est encore une petite variation, on va dire, sur le principe de la pose d'ouvrier. Bon, ensuite, la mécanique, elle est assez simple. On va aller apprendre des tours de magie, récupérer des ressources pour pouvoir préparer ces tours de magie, qu'on va aller ensuite installer au théâtre et faire un spectacle à la fin. Et en faisant le spectacle, on va récupérer des points de victoire et des sous. Concernant les ressources qu'il faut acheter, il y a un système de commandes, c'est-à-dire qu'il y a des ressources qui sont disponibles à ce tour-ci, il y a 4 ressources qui sont disponibles à ce tour-ci que vous allez pouvoir acheter, mais si vous voulez l'une des ressources qui n'est pas disponible, vous allez la commander, elle sera disponible au prochain tour. Par contre, du coup, l'une des ressources va être retirée du marché. Donc ça, c'est encore quelque chose qui va vous permettre d'aller un peu titiller vos adversaires, puisque si vous voyez qu'un adversaire a besoin d'une ressource, vous allez pouvoir passer commande d'une autre ressource à la place de celle-ci, et du coup, la première ressource va disparaître. Tricarion est un jeu de Victor Peter et Richard Hamann, édité chez Mindclash Games en 2015. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, et pour une durée de minimum 2 heures. Enfin, selon le nombre de joueurs, bien sûr. Concernant la fabrication du jeu, j'ai choisi la solution de facilité pour le plateau de jeu, puisque j'ai juste plastifié mon impression et j'ai scotché ensemble, ce qui fait un plateau de jeu très très fin mais qui fonctionne très bien. Les cartes sont également plastifiées. Après, il y a beaucoup de jetons, donc là j'ai collé sur du carton de calendrier découpé au cutter, tout simplement. Et voilà, c'était donc Tricarion, c'est mon jeu de l'année 2015. J'aime beaucoup ce jeu, même s'il est un peu dur à sortir vu sa durée et sa complexité. Il faut savoir aussi qu'il existe une extension qui permet d'augmenter encore la variation du jeu avec une zone d'action supplémentaire, des pouvoirs pour les magiciens, etc. Et voilà, mon jeu de l'année 2015 était donc Tricarion.
Et maintenant que vous savez quoi faire avec vos 10 doigts, jouez bien!
D'autres choses qui vous ont marqué, t'as noté En 2015, il y a des jeux...
Est-ce que vous avez essayé 504?
Non.
Ça vous connaissez?
Ouais. Oui, il y a 504 jeux différents dans la boîte, c'est ça?
C'est ça.
C'est des manières de jouer à un jeu. Ou c'est des variantes. Ça a l'air monstrueux.
C'est 9 modules, si vous m'avez dit. Ouais. 9 modules différents qu'on peut agencer. Je vais jouer avec le module 1 plus le 4 plus le 5. Ça fait la combinaison 145. Admettons que le 1 soit de l'exploration, le 4 soit du pick-up and delivery et le 5 soit du combat. Et tu vas avoir un jeu avec beaucoup d'exploration, ensuite un peu de pick-up and delivery et encore un petit peu moins de combat.
Ça relève, c'est le jeu qui ressemble, on relève totalement du concept en fait. Après, est-ce que le jeu est bien? J'en sais rien. L'idée.
Tu peux aussi parler de ton coup de cœur, Magic Jack, là.
C'est
le Dice Master, là.
Dice Master, ouais. Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai joué à Dice Master.
Pas de jouer à ça, quoi.
Bon, c'est pas que j'arrête pas, mais je trouvais ça fun.
C'est quoi le principe Dice Master?
Dice Master, c'est un jeu de cartes à collectionner avec des dés. C'est un jeu de dés à collectionner, ouais, totalement. Ouais. Vous achetez. Vous le connaissez pas?
Non, un petit peu, mais petit peu. Vas-y, je te laisse en
parler. Ouais, vous avez vous achetez un starter en général, vous avez tout pour jouer déjà de joueurs, vous avez effectivement... En général, c'est sur des univers forts de super-héros.
Marvel,
principalement. Il y aura un DC qui doit sortir en avril ou mai, je ne sais plus, il me semble. Et donc, le principe, c'est que vous avez une carte avec des pouvoirs et des dés avec des faces spécifiques qui représentent les éventuels personnages ou de l'énergie. Et en fait, c'est un peu comme un deck building de cartes, mais c'est un dice building, en fait.
C'est comme un Quarriors, en fait.
C'est adapté de Quarriors.
En fait, mais à collectionner, simplement.
C'est ça. Ouais. Alors, je ne connaissais pas Quarriors, mais il semblerait que c'est les mêmes auteurs.
Oui, mais c'est ça. Tu as une carte, tu fais un deck building, mais en fait, au lieu de prendre la carte, tu mets les dés dans ton sac.
Mais tu te tabasses à Quarriors?
Oui, tu te tabasses aussi.
Ouais. C'est ça. C'est du Quarriors à collectionner avec des thèmes super-héros. Et il y a aussi, je crois, comment ça s'appelle, là, machin à la recherche de l'anneau, là. Ils en ont fait. Alors,
Seigneur
le
des Anneaux.
Seigneur des Anneaux.
Dora l'exploratrice.
Ouais, c'est ça. Seigneur des Anneaux, Dora. J'ai pas vu le dernier épisode.
C'est Sonic, non, qui ramène des anneaux.
Non, mais en fait, il y a plein d'univers différents. Il y a aussi du Yu-Gi-Oh, par exemple. Et tout est compatible. Donc, vous pouvez avoir un Spider-Man qui se bat avec le dragon aux yeux rose bonbon, là, de Yu-Gi-Oh. Donc, c'est un peu
d'accord.
bizarre, mais.
Ça, je savais pas que c'était compatible.
Ouais, ouais, tout est compatible. Parce que je suis allé regarder sur Internet la finale des championnats du monde. Mmh. Parce que, comme d'hab, il y a les championnats du monde. Et effectivement, les mecs, ils avaient des dés qui venaient de différents univers. Ça fait un peu bizarre, quoi. Donc. Mmh. Mais sinon, ouais, le concept de jeu, ça se joue super vite, c'est super bien. Je trouve que c'est super malin pour équilibrer le fait que quand tu tapes l'adversaire, bon, ton dé, il revient pas tout de suite. Voilà, donc, et il y a énormément de combos à faire. Par contre, c'est à collectionner. Et même si c'est pas cher à l'unité, ça peut revenir cher. Donc moi, j'ai limité mes achats dans le domaine, mais ça tourne déjà très très bien. J'ai un Wolverine, il est trop fort, quoi.
Tu vas pas faire des compètes.
Alors peut-être des compètes locales, puisque votre partenaire Philibert manifestement envisage, j'ai ça au conditionnel, de faire des petits tournois boutiques en janvier. J'irai, mais plus qu'un tournoi boutique, non, parce que je vais pas faire la course à l'achat de Dice Master.
Ok.
Parce qu'il y a un système de rareté, bien sûr, hein, comme tous les jeux.
Bah, comme voilà,
j'imagine.
Et la rareté, c'est pas les dés, c'est les cartes. Par contre.
Et donc, tu sais pas, quand t'achètes un booster, tu sais
non.
toujours pas.
Tu as deux cartes. Tu as deux cartes de dés. Alors, les dés et les cartes correspondent. Hein, le dé.
Encore quoi.
Ouais, c'est à collectionner. Hein, donc,
on sait jamais.
C'est marrant que ce soit des dés d'un autre jeu, tu vois, par exemple.
Non, mais ça pourrait être d'un autre super-héros, par exemple. T'as une carte de Spider-Man avec Bouffon Vert en dés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que parce que le nombre de dés, il est limité, mais vous avez dans le starter, par exemple, Spider-Man, il a le droit à maximum 4 dés, mais vous en avez que 2. Donc d'accord. Il faut récupérer d'autres dés Spider-Man si vous voulez avoir les 4. Après, est-ce que vous avez joué avec 4 dés, ça c'est... Après, parce qu'il faut construire sa petite équipe avant chaque partie.
C'est génial.
C'est super.
Donc Guillaume, dès qu'il y a des dés, il n'aime pas. Sauf Pyramido.
Je connais pas.
C'est en français.
Les dés Pyramido.
Ah, ouais. C'est un jeu qui s'appelle Pyramido.
Les D4, tu peux les faire.
Les D4, c'est un pyramide.
À base triangulaire.
Ouais, c'est ça.
Pyramido, c'est un bon nom de jeu.
On fait Pyramido. Pousse-le tout de suite.
Mais c'est en français, Dice Master ?
Ils ont sorti, oui, c'est sorti en français depuis pas très longtemps, mais c'est sorti en français. D'accord. Pas toutes les extensions, mais certaines.
Bon. Donc, Dice Master, c'est bien, jouez-en.
C'est ça. C'est super. Bon, il y a des trois trucs, mais bon, bref.
Guillaume, un jeu à conseiller, toi ?
L'extension de Russian Railroad. un jeu à conseiller, non, écoute, j'ai joué à...
Give me five.
Viticulture. Alors la joue sèche, quoi.
T'étais dans
c'est sur le pinard.
Ouais, c'est sur le pinard. C'est
purée, je le savais.
C'est un Kickstarter, placement d'ouvriers, ouais. Une boîte énorme.
De Jamie Stenmeyer, ça ?
Ouais, c'est possible.
C'est toi qui fais Sight ?
Non,
c'est pas le même.
Oui, si, c'est lui.
Ouais.
C'est
lui. Le crossover entre Agricola et Kemet.
C'est ça, c'est lui.
C'est comme ça qu'il le présente.
Ah ouais.
Ouais.
Même dans le Kickstarter.
Ouais.
Et vous avez accepté ça.
On a rien touché.
Écoute.
Non, mais ça fait
plaisir. Tu donnes le numéro de nos avocats, tu les appelleras après.
Ceci dit, ça fait plaisir. Tu vois, ouais. Genre, moi, quand le mec a annoncé son truc, je me suis dit, ok, ça veut dire que quelque part, Kemet a été reconnu comme un. Oh, bah, je sais pas, voilà, pas au niveau de référence, mais ça devient une référence. Donc, du coup.
Oui, ça fait plaisir. Ouais,
j'ai eu un début d'érection.
Ah, toi ?
Ouais. Ouais, quand même.
Bon, même faut un peu plus, mais
pas longtemps.
Ça m'a fait plaisir. Mais un début
et donc, j'ai joué à son jeu. Et c'est un jeu de placement d'ouvriers dans le monde de la viticulture. C'est pas mal.
Là, tu parles
c'est
de viticulture.
De viticulture. Non, ça, je l'ai vu à Essen. Je sais pas comment dire, parce que je l'ai vu, mais c'était un proto. Je trouvais que les figurines n'étaient pas gégènes. Mais a priori, il y a quand même des bons retours sur ce jeu-là. Quoi. Le Kickstarter a tout explosé encore.
Oh, il a fait des, je sais pas combien, mais il est pas loin de 2 millions, non ? Ou même un peu plus.
Ouais.
Il me semble.
J'ai pas suivi.
J'ai suivi de loin. Ouais. J'ai pas pledgé, comme on dit.
J'ai pas pledgé non plus parce qu'il y a un de nos testeurs qui a pledgé. Donc ouais. De toute façon, on y jouera.
Ah.
Ouais, à chaque partie, on fera putain, mais c'est pompé sur Kemet. Oh, mais c'est Kemet, quel salaud.
Et là, vous l'attaquerez donc.
Bah, dès qu'on rencontre sur un salon, on lui met
la gueule.
Ouais.
Il y en a un qui tient et qui est tabassé avec
pas
des barres de fer.
Vous êtes,
On dirait que c'est à l'ancienne, nous.
Batte de baseball et tout ça.
Alors, à l'ancienne.
Ok, on a fait le tour.
Ouais, vous avez encore quelque chose à ajouter ? Vous voulez rajouter ? Que Kemet, c'est trop super.
Est-ce que j'ai besoin de le dire ? Non, rien de particulier.
Je te laisse conclure.
En espérant que tu as appuyé sur enregistrer.
En espérant.
C'est ça, sinon on recommence tout. N'oubliez pas, maintenant, Proxy Jeux, c'est avant tout la Proxy Team. Vous pouvez nous trouver un petit peu partout en France. Si vous voulez nous rencontrer, faites-nous signe. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxyjeux.fr. Vous y trouverez toutes les informations et les sujets qu'on a abordés ce matin.
Au moment où vous moins se couper au montage.
Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Le compte Twitter a changé récemment, donc vérifiez si vous êtes toujours abonné.
Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a changé?
Et pourquoi? Parce qu'Olivier voulait récupérer son compte. Non. C'est Olivier qui tenait le compte et voilà. Donc on a séparé les comptes.
Ok.
Sismo
sismique.
Ça ne nous regarde pas.
Ouais, je préfère taire ce sujet, merci.
Ça va couper au montage, quoi.
Non, on coupera pas. On coupe beaucoup, on coupe rien.
D'accord.
Pensez à nous noter sur iTunes. Mettez-nous des commentaires,
des étoiles.
Surtout, parlez de nous autour de vous. Le prochain épisode sera animé par Olivier. Donc, vous allez retrouver enfin sa voix grave et suave. Il vous parlera
Il invitera
Alexandre Droit.
Voilà.
Et la cale.
Compagnie des auteurs lyonnais.
Ah, c'est pas son armoire qui est bancale qu'il faut.
Non, je crois que c'est, ouais, c'est ça, la compagnie des auteurs lyonnais.
C'est pas non plus l'Alsace Champagne Ardennes Lorraine.
Ouais, c'est vrai. Arrête. Ça me fait déjà assez mal comme ça.
Voilà. Donc d'ici là, jouez bien.
Jouez bien.
Au revoir.
Au revoir.
Ah, faut terminer par jouer bien.
Non, on va trouver leur truc.
Je crois que leur pitch de fin, c'est jouer bien. Donc, faut le faire.
Je vais faire comme ça.
Et en attendant,
jouez bien.
Au revoir.
Super, merci l'ambiance. Hein.
Donc là, t'appuies sur stop.
Attends, tu vas tout effacer.
Je vais l'effacer pour ça, moi.
Stop recording.
Ça recordait, donc c'est bon signe.